Le micro est à vous.
À l'occasion de Pâques 2020, j'ai la joie de recevoir pour mon premier plateau radio à distance par visioconférence le comédien Abel Jaffry, vu et c'est notre sujet dans La Passion du Christ de Mel Gibson en 2004. Hubert de Torcy, à la tête de Sage, premier distributeur de films d'inspiration chrétienne en francophonie, ainsi qu'Audrey et Peter May de Ravive France, une organisation à but non lucratif qui a pour but la réconciliation entre les croyants juifs et les chrétiens. Bonjour.
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 L'analogie est trop flagrante pour ne pas l'évoquer avec le lancement de la Semaine Sainte avant la célébration de Pâques. Nous abordons bel et bien un plan de salut en pleine crise sanitaire mondiale. Mmh. Alors vous, comment vous vivez le confinement ?
Pour nous, c'est sport. Hein. On est sur Lyon, en appartement, mais on est créatif. On le vit comme une pause aussi, dans toute la routine, mais aussi beaucoup de... Ouais, le quotidien qui ne nous donnait pas forcément le temps avec les enfants. Donc, on apprécie ça aussi.
C'est un peu un challenge avec les deux enfants, mais... C'est pas horrible. C'est franchement, on a profité de faire le temps comme une famille.
Moi, ça va en fait parce que j'ai de la chance d'être dans une maison avec un jardin. Donc, nos quatre enfants peuvent s'égayer gaillardement sur le trampoline. Et moi, je suis très heureux du confinement en fait. Ça fait pas de temps, je suis très heureux. Donc, j'ai presque peur que ça s'arrête trop tôt.
Pour moi aussi, c'est un peu la même chose en fait. Je suis très heureux de ce confinement parce que ça permet aussi de se retrouver un petit peu tous sans être complètement pris par l'aspect professionnel. Et puis comme Hubert, j'ai la chance d'avoir une cour où je suis. Pourtant, je suis au centre de Paris puisque j'habite dans le 19e à Belleville. Et donc, ça nous permet un peu avec la famille de pouvoir marcher, sortir un peu, faire quelques pas et puis prendre soin des autres aussi.
Pâques, de l'origine aux traditions jusqu'à nous aujourd'hui. C'est donc avec vous, Peter et Audrey, qu'on va pouvoir aborder cette première thématique de notre entretien. Vous êtes mariés, vous avez deux enfants, vous vivez donc à Lyon, vous l'avez dit. Vous exercez le ministère francophone de Revive Israël, qui a comme pour mission de connecter l'Église avec un grand E, avec les croyants juifs, par la prière, la formation et le discipulat. De fait, vous avez souvent voyagé en Israël et porté sans doute un regard différent sur les fêtes dites chrétiennes qui en fait découlent presque que toute de l'histoire juive. Alors revenons à l'origine de la fête de l'hébreu Pessah, le passage. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est l'histoire de Pâques. Vous avez beaucoup de traditions là-bas. En effet, les différentes... en hébreu, c'est le Seder. Vous commencez comme une famille, tout ça. Vous avez beaucoup de différentes choses. Et c'est une chose, c'est vous avez le pain, vous avez le vin... Vous avez les différents éléments là-bas.
Tu parlais de Johan de Pessah, donc le passage. Et ce que Peter disait, c'est un passage de l'ange de la mort au-dessus du peuple de Dieu. Et donc, c'est une consécration des familles à ce moment-là, puisqu'on vient mettre le sang de l'agneau, qui est un agneau qui est sans tache, qui est trouvé pur. Et de là, il y a un passage... Ensuite, de l'esclavage vers la liberté. Donc, c'est intéressant.
À travers la mer Rouge, notamment.
Et oui, voilà. Puis c'est un passage aussi. On a tout un nombre de personnes qui sortent d'Égypte, puis qui va devenir un peuple. Et ça, donc, après, plus tard, on verra que c'est aussi le passage de la mort à la vie à travers du Christ.
Alors, avant ça, s'ensuit les traditions avec d'une fête païenne, en fait, célébrant le printemps, à une fête chrétienne qui commémore à la fois la dernière scène, la passion du Christ et sa résurrection, donnant d'ailleurs au passage Pâques au pluriel pour bien faire la distinction avec la Pâques originelle juive.
Exactement.
Sur les expressions dans le monde chrétien, qu'on soit catholique, évangélique, protestant, etc., on a presque chacun sa propre tradition. Avec peut-être la seule chose qui rassemble tout le monde sur le calendrier, c'est le célèbre repas de famille, quoi.
Exactement.
Justement, Pâques, surtout dans la culture juive, c'est un temps familial. C'est un temps familial, puisqu'on voit aussi dans le récit biblique que les familles se sont enfermées chez elles pour justement prendre ce temps-là. C'était un temps où ils se sont regroupés parce qu'ils savaient qu'ils devaient partir en hâte. Et c'est pour ça que ça se vit de manière très familiale. Et au travers de ça, il y a plusieurs symboles aussi. Donc, on se rappelle qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain Donc, il y a ces fameux pas, parasim, les matzahs qui sont là, qui sont très, très significatifs.
Qui ressemblent à des galettes un peu plates.
Ouais, exactement. Voilà. Puis aujourd'hui, préfabriqué, donc il y a des petits trous. Enfin, c'est dans ce qu'on appelle le seder, le repas traditionnel, il y a trois pains qui sont représentés. Bon, il y a toute une signification aussi hein, au niveau...
Alors justement, quelle signification Pâques pourrait avoir pour l'homme moderne d'aujourd'hui?
C'est très profond parce que c'est le Pâques, c'est à propos de la délivrance, de sortir de l'esclavage. Aussi, c'est un moment avec toutes les différentes choses qui passent avec le coronavirus. Tout le monde est caché dans notre maison propre. Ça veut dire aussi à cette même heure dans le Pâques le régional. C'est un moment quand tout le monde a besoin d'être dans la maison, d'être protégé. Mm-hmm. Alors, c'est pour ce moment, il fait beaucoup de confiance en Dieu pour se protéger. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour maintenant. C'est quelque chose que chaque personne peut prendre pour eux.
D'autant plus que vous parlez de temps en famille, pour le coup, on est un peu forcé de vivre ce temps en famille, mais c'est une bonne chose. Enfin, en tout cas, on est plusieurs à plutôt apprécier ce moment de confinement en famille. Durant cette semaine sainte, de manière pratique, qu'est-ce qu'en famille, on pourrait faire pour peut-être donner plus de sens ou redonner du sens aux célébrations de Pâques cette année?
Pour nous, d'un point de vue pratique, le fait aussi de se dire, OK, il y a eu le sang qui a été mis sur les portes de chaque maison, pour que la mort ne passe pas au-dessus. Et aujourd'hui, on se dit, OK, nous, dans notre famille, on prie tous les jours pour la protection de nos vies, pour la santé, et de se dire, OK, on va mettre des petits papiers rouges au-dessus de la porte. Parce que nous, on est parents, on veut aussi que nos enfants ils puissent recevoir quelque chose de ce temps-là. Ce temps de confinement, ce soit pas juste un temps, OK, on attend, on se tourne les pouces, mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans cette signification? Et on croit que c'est très profond que Pâques arrive maintenant. Enfin, c'est clé, c'est le même message, c'est-à-dire, OK, on est confiné, mais en même temps, on n'attend pas les bras croisés. Et il y a quelque chose de, enfin, je trouve en tout cas, qui nous ramène au noyau familial. Et comme le disait Abel, Hubert tout à l'heure, un temps finalement de repos forcé. Et qui nous laisse méditer sur la signification réelle de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Est-ce qu'on transmet la peur ou est-ce qu'on transmet, comme ce temps de Pâques, il y a une délivrance, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Il y a un passage de la mort à la vie. Et ça, c'est ce qu'on veut croire et c'est la chose à laquelle on s'attache.
Pour les enfants comme pour les adultes, on peut également justement se remémorer l'histoire du peuple juif, du peuple d'Israël à travers différentes productions cinématographiques et même des dessins animés. La transition est donc toute faite avec vous, Hubert de Torcy, engagé dans la communauté de l'Emmanuel depuis 1996. Vous avez été successivement producteur de comédies musicales, rédacteur en chef du mensuel Il est vivant, puis directeur des éditions de l'Emmanuel, avant de lancer l'invisible et développer Sage dans la mission et l'évangélisation par le cinéma avec comme but à atteindre vos propres productions distribuées dans les salles de cinéma francophones.
Tout à fait, mais je n'avais pas prévu de vous parler des 10 commandements aujourd'hui.
Alors exactement, on est là pour parler de la passion du Christ et notamment de cette nouvelle formule inédite pour cette saison de Pâques, un peu forcée avec la situation du coronavirus, puisque vous lancez avec Sage le e-cinéma. Alors bien sûr, on va en parler plus en détail dans quelques instants. L'impact du cinéma, lui, est décuplé parce que il rassemble tous les arts sur le même plateau. Mais pourquoi avoir voulu racheter les droits de la passion du Christ pour le ressortir au cinéma?
Parce que pour moi, c'est un film culte. Enfin, vraiment, c'est probablement, j'allais dire, mon film préféré. Quand il est sorti en 2004, j'ai eu la chance de le voir dans un cinéma le Vendredi Saint de cette année-là, à 15h, donc, qui est l'heure traditionnelle à laquelle on dit que le Christ est mort en croix. Et ça a été pas seulement une expérience cinématographique, bien entendu, mais vraiment une expérience spirituelle très, très forte et très impactante pour moi. Le plus beau chemin de croix que j'ai jamais vécu. Et donc voilà, enfin pour moi c'est vraiment voilà, c'est plus qu'un film, c'est vraiment quelque chose qui nous plonge dans la parole de Dieu, qui nous met en présence de Jésus et qui nous permet de revivre avec lui cette passion. Et donc ça faisait très longtemps que j'avais le souhait. Pour moi c'est vraiment le film à voir pendant la Semaine Sainte. Voilà, comme mon métier c'est de distribuer des films chrétiens. En fait, pendant 15 ans, le film a appartenu à Studio Canal. Il a été racheté par Media One, qui est donc une très grosse société de production en France. Et donc, on a signé un partenariat avec eux. pour pouvoir le sortir en salle, en DVD avec eux, etc. Donc, on voulait le sortir en salle de cinéma pour la Semaine Sainte, mais bien entendu, c'est pas possible puisque toutes les salles sont fermées et puis on est tous confinés chez soi. Et donc, on a trouvé parmi nos amis distributeurs, l'un d'entre eux s'appelle 25e Heure, c'est un distributeur indépendant qui vient de mettre en place une plateforme de e-cinéma. Voilà, qui permet justement d'organiser comme des séances de cinéma. On achète son billet pareil. On regarde un film d'ailleurs avec des sièges rouges devant soi. Enfin, on peut mettre plein écran, je vous rassure quand même, mais on peut aussi le regarder avec l'impression qu'il y a des fauteuils devant soi.
Alors, on va revenir plus en détail sur le côté technique et pratique dans quelques instants. En tout cas, qui dit passion, dit certainement amour. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est une thématique qui revient dans bon nombre de productions que vous proposez hein, depuis ces dernières années en France, avec notamment Dieu n'est pas mort, Jésus l'enquête, La voix du pardon, Interview avec Dieu, et puis dernièrement Le voyage du pèlerin. C'est forcément obligatoire pour un film basé sur la foi chrétienne d'aborder l'amour inconditionnel de Dieu ?
Alors, sans doute que non. Hein. Enfin, la définition d'un film chrétien, ça peut être très vaste. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse en tout cas, ce sont les films qui nous mettent en présence de Dieu. Donc effectivement, c'est une thématique qu'on va trouver dans beaucoup de films qu'on distribue.
Spécifiquement dans La Passion du Christ, on revit les 12 dernières heures de la vie du Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus prie après avoir partagé un dernier repas avec ses apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan. Trahi par Judas, Jésus est arrêté et emmené à Jérusalem où les chefs des pharisiens l'accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort. C'est le synopsis du film. Quand on se souvient des retours de l'époque en 2004, vous l'avez dit déjà, et moi je m'en souviens, j'étais au lycée, personne ne peut rester indifférent face à l'horreur de la crucifixion versus la puissance de la résurrection. Est-ce que on est obligé d'avoir de telles images fortes pour en parler, ou est-ce qu'on pourrait en parler sans violence tout en ayant le même impact, alors quand même que, rappelons-le, le film lui est interdit au moins de 12 ans.
Oui, le film est très violent, mais parce qu'effectivement, sans doute que ce qu'a vécu Jésus est très violent. On a, je pense, une vision un peu aseptisée de la croix, parce que bah, d'abord, elles sont chez nous, hein, ces croix. Mais quand les évangiles ont été rédigés, c'était quelque chose de bien concret. Les gens voyaient très bien ce que c'était que la crucifixion, et il n'y avait pas besoin de donner davantage de détails. Et donc, peut-être que nous, voilà, qui vivons loin de cet univers-là, romain, extrêmement violent de l'époque, on a perdu de vue ce que ça représentait. Il ne s'agit pas de faire un concours en disant bah, Jésus a plus souffert que n'importe quel homme au monde, parce que c'est sans doute faux. Physiquement, c'est très probable que d'autres aient souffert davantage que lui. Mais on oublie qu'il a subi deux condamnations à mort, il a subi la double peine. C'est-à-dire que la flagellation était elle-même une forme de condamnation qui pouvait souvent conduire à la mort. Et c'est ce choix-là qu'a fait Pilate pour essayer en quelque sorte de protéger Jésus de la vindicte des Juifs de l'époque, pensant que ça allait les apitoyer et que ça allait calmer la foule. Et en réalité, après qu'il ait subi ça, il a dû subir la deuxième peine. Donc effectivement, je dirais la souffrance qu'a traversé Jésus à ce moment-là est absolument inouïe. On peut découvrir l'amour de Dieu autrement, bien entendu. Hein, on peut tout simplement expérimenter l'amour de Dieu pour soi, dans la prière, enfin, à maintes occasions. Le mérite de ce film, en tout cas, je pense, c'est peut-être de nous faire toucher du doigt quel a été le prix qu'a payé Jésus pour sauver justement l'homme de la mort et du péché. Ce film, il nous permet de regoûter ça, de recomprendre que c'était pas juste un cadeau comme ça, il y a eu un prix à payer.
Pour vivre ce temps fort spirituel avant Pâques, vous proposez donc plusieurs séances en fait durant la Semaine Sainte avec plusieurs intervenants, Bruno Picard, l'abbé Amer, Cospiel, mais aussi Abel Jaffry, pour un tarif unique familial de 8 euros. Alors est-ce qu'on peut justement expliquer là plus précisément comment ça se passe, est-ce qu'il faut que j'achète un billet, comment je fais pour l'acheter et puis sur quel support je vais pouvoir regarder ça quoi.
Alors le plus simple c'est d'aller donc sur le site lapassionduchrist.com, et là vous avez toutes les séances qui sont affichées. Vous choisissez la séance, c'est-à-dire la date et l'heure qui vous plaisent, aussi en fonction de l'intervenant que vous voulez voir au cours de votre séance. Et puis effectivement c'est un tarif unique de 8 euros, que vous soyez deux, que vous soyez seul ou que vous soyez 15 derrière votre écran. Et puis le jour J et à l'heure dite, vous vous connecterez sur le lien qu'on vous enverra quand vous aurez acheté le ticket. Vous renseignerez votre adresse email et ça vous permettra d'arriver dans la séance qui va se dérouler à l'heure dite. Elle sera souvent précédée d'une petite intervention de l'un de ses invités. Il y aura ensuite le film et puis ensuite une reprise qui se fera soit de manière préenregistrée par tel ou tel intervenant, soit en live puisqu'il y aura la possibilité
de chatter.
cette salle, de chatter, de poser ses questions à l'intervenant. Et donc, il y a des intervenants très divers. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs. Et puis, il y a Abel qui est le comédien, le seul comédien français à ma connaissance. Hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, toutes les dates.
L'expérience de tournage pour La Passion du Christ. On va donc en parler avec vous, Abel. Si mes informations sont bonnes, vous êtes né le 5 décembre 1965 à Tunis, en Tunisie, et vous jouez des rôles secondaires avant que Mel Gibson ne vous engage pour interpréter un gardien du temple dans La Passion du Christ, un rôle qui vous permet ensuite d'avoir votre nom en haut de l'affiche et d'être récompensé du prix d'interprétation masculine au Festival international du film d'Amiens. En 2015, vous devenez chevalier de la Légion d'honneur et ces dernières années, vous avez donné des cours aux élèves de l'école de la Cité du cinéma créée par Luc Besson à Saint-Genis, en région parisienne. J'ai compté, vous avez à votre actif 36 longs métrages, 14 cours, une trentaine d'apparitions TV et 5 participations au théâtre. Et enfin, vous avez même écrit « Les dates d'Aoulef », un livre publié aux éditions PC. Quel CV ! Comment on vient à tourner sur une production qui comptabilise au box-office plus de 622 millions de dollars?
Alors, c'est assez extraordinaire. C'est une très bonne question. Car je suis arrivé sur ce film un peu, on va dire, avec l'esprit du film. Parce que, en fait, j'avais fait un court-métrage auparavant qui s'appelait « L'élu ». Et le réalisateur de l'époque m'appelle en me disant... le court-métrage est sélectionné dans un festival à Genève, en Suisse. Je ne peux pas y aller, mais comme tu es l'acteur du film, est-ce que tu veux bien y aller? Je dis, bah oui, d'accord, je vais y aller, je vais présenter le film. Donc, je vais à ce festival, je présente le film pendant le festival. Et puis, comme à chaque fin de festival, il y a toujours une petite soirée pour les remises de prix, etc. Et moi, je ne connais personne à ce moment-là dans le festival et à cette soirée. Je me retrouve au bar en train de boire un verre et une dame qui est là à côté de moi. Et on échange ensemble. Donc, on se met à discuter et on parle de tout sauf de cinéma alors qu'on était dans ce film. Cette personne, elle avait un petit accent américain, comme ça, anglophone en tous les cas. Et elle me dit à la fin de la soirée, comme ça, mais oh, vous savez, je suis casting américain. J'aimerais bien avoir votre CV, vos photos, tout ça. Je dis oui, bien sûr, OK. Donc, elle me donne sa carte. Je prends sa carte, je la mets dans ma poche. Et puis, ensuite, en rentrant à Paris, je passe voir l'agent chez qui j'étais, donc voilà. Et je lui dis, bah, il me dit, bah, quoi de neuf? Je dis, bah, je suis allé à un festival, train, ah, d'accord. Et je lui dis, bah, écoute, j'ai rencontré une personne qui m'a demandé qu'on lui envoie un dossier. Ah, me dit, d'accord. Il me dit, ah, c'est qui? Bah, je dis, bah, je ne sais pas. Je sors la carte comme ça et je lui mets la carte. Et il me regarde, il dit, chez la Rubin. Et il me regarde à nouveau, il regarde la carte et me dit « Tu as vraiment rencontré Sheila Rubin ?» Je dis « Ben oui, pourquoi ?» Ben, il me dit « Mais c'est une des plus grandes castings américaines, c'est la casting de Scorsese, etc. etc. » Ah, je dis « Mais c'est génial !» Donc, on lui envoie le dossier. Entre ce moment-là précis et le moment qui va venir, il se passe 2 ans. Et moi, pendant ces 2 ans, j'ai complètement oublié ce passage-là. Parce qu'entre-temps, j'ai travaillé, j'ai joué au théâtre, et je faisais une série qui s'appelait « Famille d'accueil ». J'avais un rôle récurrent, donc ça nécessitait de la présence pendant les tournages. Et un jour, au sortir du plateau, pour la pause déjeuner, mon portable sonne, et je réponds. Et là, j'entends « Hello, Abel, c'est Sheila Rubin. Ah, Sheila, comment vas-tu ?» Tout ça. Et on discute, et elle me dit « Voilà, je m'occupe du prochain film de Mel Gibson, et Mel veut rencontrer les acteurs du monde entier. » Je dis « Ok. » Elle me dit, est-ce que tu peux venir aux États-Unis faire des essais? Et là, je dis, bah, non, je ne peux pas, parce que j'étais engagé sur cette série où j'étais récurrent, donc j'avais un problème de date au niveau planning. Je dis, bah, non, je vais pas pouvoir, je suis désolé et tout. Et elle me dit, eh ben, écoute, de toute façon, on va passer en Europe parce qu'on doit avoir d'autres gens. Donc, d'ici un mois ou deux, on sera en Europe. Je te préviens quand on arrive en Europe. Et je raccroche mon portable en me disant, bon, ma chance est passée, puisque en général, souvent, dans la profession, on ne rappelle pas forcément. Donc, je me suis dit, tant pis. Et un mois après, au jour près, je téléphone à nouveau. Hello, Abel, oui. Oh, Sheila, oh, Sheila. Et donc, elle me dit, est-ce que là, tu serais disponible? Je lui dis, bah oui. Et elle me dit, voilà, on est à Rome et on fait les essais à Rome. Donc, elle m'envoie des essais. Ils me mettent un billet d'avion. Assez tôt le matin pour aller à Rome. Et je me retrouve à l'aéroport de Rome avec quelqu'un qui m'attend avec une pancarte. J'y vais en étant assez décontracté, dans le sens où je me disais, ah, Mel Gibson, quand même, c'est chouette et tout. Et puis, Mad Max, un peu le côté comme ça. Je dis, ce serait cool quand même que Charlemagne, Mad Max, ce serait trop bien. Et je vais aux essais. Les essais étaient à 11h30. Tout le monde était là, les producteurs, les coproducteurs, la script, enfin, une bonne partie de l'équipe, mais pas de Mel Gibson. Bon. Je fais les essais et puis mon avion était ensuite le soir en fin de journée à 18h. Entre-temps, moi je ne sais pas quoi faire, donc je me suis dit, bon, vu que c'est le sujet du film et que je suis à Rome et que c'est la première fois que je vais à Rome, je vais en profiter pour visiter Rome et donc j'aurais profité ben, pour voir des églises, des lieux saints. Et je me promène dans Rome et en plein milieu d'après-midi, à nouveau coup de portable, Hello Abel, c'est Sheila, oui. Mel Gibson a vu les essais. Il aimerait dîner avec toi ce soir. On t'a bloqué le champ parce que tu pourrais. Donc voilà la réalité de comment je suis arrivé sur ce film.
Wow. Vous êtes donc le seul comédien français dans La Passion du Christ. Vous interprétez le chef des gardiens du temple. Vous a-t-il fallu suivre une préparation particulière pour jouer ce rôle?
La préparation, elle a été surtout dans les textes en araméen. C'était une partie quand même qui a été assez difficile parce qu'elle a nécessité plus de 4 mois de préparation.
Ouais.
En sachant que, bien sûr, évidemment, que l'araméen est une langue morte. Donc, du coup, on n'allait pas évidemment apprendre l'araméen, mais les dialogues. Mais la difficulté de l'araméen, pardon, pour un acteur, en temps normal, un comédien, s'il apprend un texte, au niveau de la mémorisation, c'est assez simple, on va dire, puisque c'est son métier de toute façon. Maintenant, si on doit mémoriser un texte dans une autre langue, en allemand ou je ne sais pas, on peut aussi le mémoriser parce qu'on saura la signification de ce que veut dire un mot. Un tel mot représente un verbe. Ok, donc on a à la fois le visuel et le mot, vous voyez.
Ouais.
Mais l'araméen, on a zéro repère. Et c'était là la difficulté. Donc, on a été coaché pendant ces 4 mois avec des allers-retours sur Rome et aussi un suivi avec des CD qu'on nous envoyait et tout. Et donc, voilà. Donc, parce que c'était assez difficile d'arriver à connaître ces répliques et entendre les répliques des autres et à quel moment on doit répondre de l'un à l'autre.
Au-delà du scénario, il y a aussi un lien historique indéniable. Est-ce facile de s'engager dans un tel projet?
Oui, parce que d'abord, c'est un très beau projet, à la base, et c'était intéressant de partir dans une aventure comme celle-là. Et puis pour une expérience de ce niveau-là, en termes à la fois de production, en termes de travail, c'est très intéressant. Donc moi, je trouvais ça fascinant. Et le fait aussi d'avoir été engagé sur ce film, parce que beaucoup d'autres comédiens français qui ont été castés sur ce film. Je ne suis pas le seul, il y a énormément d'autres comédiens, et puis dans le monde aussi. La relation qu'on a pu avoir avec le réalisateur, donc Mel Gibson, était intéressante. Moi, la première question que j'ai posée à Mel Gibson, quand on a commencé les répétitions, que j'étais engagé, ça a été de lui dire, excuse-moi Mel, mais des films sur Jésus, il y en a eu beaucoup. Pourquoi tu as envie de faire ce film? Qu'est-ce que tu veux raconter? Et il m'a dit, tu sais, tous les films qui ont été faits précédemment, on a souvent montré Jésus de manière violente, mais plus avec des bobos. Et il m'a dit, j'aimerais vraiment qu'on voit la souffrance de sa chair qu'il a vécue et qu'on comprenne cette douleur profonde qu'il a subie. Et là, j'ai compris un peu où il voulait en venir par rapport au film.
Quels ont été les effets de cette expérience dont vous parliez sur votre vie personnelle et professionnelle?
Sur ma vie personnelle, d'abord, ça a été une très belle rencontre avec lui. C'est quelqu'un de très bienveillant, dans le sens où moi, j'étais coupé de ma famille, donc de ma femme et de mes enfants. Le tournage, pour moi, a duré quand même 1 an.
Eh oui.
Et j'étais à l'hôtel. Donc, à un moment donné, il est venu me voir. Il m'a dit, mais attends, mais Abel, mais tu as des enfants, toi? Je lui ai dit, oui, j'en ai 2. Ton épouse? Je lui ai dit, oui, oui, ils sont à Paris et tout. Et il me dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je te propose, si tu veux, tu sors de l'hôtel, je te prends une maison, tu fais venir tes enfants, on les met à l'école française, et comme ça, tu auras ta famille avec toi.
Wow.
Donc, ça m'a touché parce qu'effectivement, je trouve ça génial. Tu n'es pas obligé de faire ça. C'était, ça ne fait pas partie du contrat. C'était juste humainement, voilà, il a trouvé que c'était important. Ça n'a pas pu se faire parce qu'à l'époque, mes enfants étaient petits et quand je leur ai posé la question, comme on était quand même en cours d'année, par rapport à leur scolarité à l'école, eux, ils ne souhaitaient pas parce que ça faisait voilà, les copains, l'école, etc. Donc, on s'est réorganisé différemment. Mais sur le plan personnel, ça a été vraiment un cadeau, je vais dire.
Dans cette relation que vous avez pu avoir avec Mel Gibson, est-ce que vous l'avez senti profondément habité par cette histoire de la passion et l'impact du Christ dans sa vie, ou le point de vue cinématographique et sa vie personnelle étaient suffisamment distincts?
Non, non, il était vraiment impacté. Il a été impacté et nous-mêmes, on a été impactés. Il nous avait dit dès le début, au moment des répétitions, moi, je vais organiser des messes le matin et le soir, avant de démarrer le tournage et à la fin de la journée de tournage. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Ceux qui souhaitent venir et participer, ils peuvent, ils sont les bienvenus. Ceux qui ne souhaitent pas, ce n'est pas grave, mais sachez qu'il n'y a aucune obligation, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire, mais sachez que ça existera. Donc, il y a eu des personnes, dont moi, qui avons décidé d'y participer. Moi, je ne suis pas du tout chrétien, mais j'ai participé à ces messes et à ces séances parce que aussi, ça faisait partie de mon engagement par rapport à mon métier et par rapport à ce que je vivais sur le moment. Le matin, on suivait les messes avec Pierre Leroux, si ma mémoire est bonne.
Abel, quel est votre meilleur souvenir de la Passion du Christ?
Il y en a plusieurs, en fait, parce que ça a été une grande aventure. J'ai passé un an quand même sur ce tournage et tout. Donc, il y a eu plusieurs surprises. Il y en a une, je pense, qui nous a aussi beaucoup rapprochés. C'est que l'hôtel où je me trouvais, tous les matins, au petit déjeuner, avant d'aller sur le plateau, dans un hôtel, il y a toutes sortes de gens, et il y avait un couple de personnes âgées qui étaient là. Et ce couple de personnes âgées, on s'est mis à discuter comme ça, naturellement, tout simplement. Et puis petit à petit, on avait pris un peu coutume de déjeuner ensemble. Et puis bon, c'était un couple d'un certain âge. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, le matin, ils m'attendaient un peu pour le petit déjeuner parce que ça nous permettait de discuter ensemble. Donc pendant tous ces moments-là, ça a duré plus de 2 mois. Comme ça, on discutait et tout. Et il fallait savoir que sur le tournage, pendant le tournage, c'est ce qu'on appelait plateau fermé. C'est-à-dire que personne de l'extérieur pouvait intervenir sur le plateau. Il fallait une autorisation, il fallait, ou alors, même pour les gens de l'équipe, et même nous, si on faisait venir quelqu'un, et il fallait que ce soit un membre de la famille. Donc, par exemple, ma femme Katia, quand elle venait, puisque Mel m'avait proposé justement qu'elle vienne passer des week-ends, donc il la prenait en charge aussi, elle venait sur le plateau, mais elle avait son autorisation. Et un beau jour, je vois ce couple de petits vieux qui avaient été discutés sur le plateau. Ah, je dis, bah tiens, non, c'est marrant. Et moi, j'ai cru que c'était des gens qui étaient peut-être invités par un directeur de prod, parce que voilà, on les voyait. Et en fait, j'ai découvert, à ma grande surprise, que c'était les parents de Ben.
Ah oui.
Gibson, mais voilà, c'est
pas. Waouh. Pour vous, Hubert, quelle serait votre plus belle satisfaction avec ces séances e-cinéma?
Je suis encore dans les histoires formidables d'Abel. Moi, donc je sais pas. Non, c'est formidable. Merci Abel pour tous ces témoignages. C'est super. Hein, c'est vraiment génial. Donc c'était quoi la question, excuse-moi Johan, du coup?
Quelle serait votre plus belle satisfaction à Sage avec les séances de e-cinéma pour la Passion du Christ?
Ah bah qu'elle remporte un vif succès, c'est-à-dire qu'un maximum de personnes puissent en profiter, ça serait vraiment super. Et puis peut-être que voilà, on ait des témoignages de gens qui peut-être reviennent à Jésus en voyant ce film-là, ça serait aussi une vraie bénédiction.
Pour vous, Audrey et Peter, si vous auriez un mot chacun pour qualifier Pâques 2020, lequel vous utiliseriez?
Manifestation de sa présence.
Oui, la liberté de Dieu.
Voilà, C'est Dieu qui s'implique dans ma vie pour que je m'implique à transmettre sa vie dans mon monde afin qu'il devienne aussi son monde. Je ne pouvais conclure cette émission sans avoir une pensée pour la famille de Stéphane Bonvalet, qui était mon homologue à Phare FM Romandie en Suisse et qui est brutalement décédé des suites du Covid-19 il y a quelques jours. Merci à chacun pour votre temps. On retrouve votre actualité respectivement sur abeljaffry.com, sagedistribution.com ou lapassionduchrist.com et puis ravifrance.org. Merci encore à chacun de vous et puis joyeuse Pâques.
Bah, joyeuse Pâques. 5-7 de Pâques.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.